dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier. Quel est le lien entre Robin Cook, l'auteur britannique de polar qui a vécu dans le sud du Rouergue dans les années 70-80, le magnifique texte d'Elisa Vix tiré de son livre « Elle le gibier » qui porte sur la noirceur du monde de l'entreprise, et la ville de Millau dans le sud d'Aveyron? Pas évident au départ, hein? Robin Cook, harcèlement au travail, Millau... Et pourtant... Ceux qui font le lien, ce sont les organisateurs du tout jeune mais très professionnel festival Polar, Vin et Compagnie. Réunis à Millau, autour de la créatrice de cet événement, Paul Aminat, ils nous expliquent la création du prix Robin Cook, la genèse du festival, en détail la déclinaison en conférences, en projections, en interventions en milieu scolaire, en table ronde, en séance de dédicace et même en lecture musicale. Justement, puisqu'il est question de lecture musicale, Dissonance aujourd'hui vous invite à en écouter une. Au préalable, calez-vous dans votre fauteuil, laissez-vous porter par la voix des organisateurs et ensuite, par la remarquable mise en musique de Vincent Dubu, du magnifique texte d'Elisa Vix, tiré de son roman « Elle le gibier » paru au Rouergue Noir. Roman qui a reçu le prix Robin Cook en 2020 et enregistré en public en 2021. Puis, si vous aussi vous voulez participer à l'édition 2022 de cet atypique festival Polar, Vin et Compagnie, des renseignements vous seront donnés en fin d'émission. Nous nous transportons au QG des organisateurs, tout juste avant d'aller déguster les mots du dernier roman d'Elisa Vix, prix Robin Cook 2020. Polar, Vin et Compagnie sur Dissonance. Alors aujourd'hui, Dissonance part à la rencontre de Patrick, Michel et Paul, une partie des organisateurs du fameux festival Millavois, Polar, Vin et Compagnie. Pourquoi ce titre ?
Ben parce qu'on trouve que le polar, parce qu'on adore le polar, on trouve que ça va bien avec le vin qu'on apprécie également, avec modération. Et Compagnie, parce que on a envie d'insérer le polar dans le cinéma, la création artistique, les arts plastiques, enfin dans tout ce qu'on où on peut retrouver cette ambiance de polar.
Quelle est la genèse de ce festival ?
Alors ça date de, on a eu l'idée en 2017. On était trois au départ. Donc on a créé la sauce très rapidement pour pouvoir commencer à élaborer les demandes de subventions, enfin tout ce qui est administratif, etc. Et puis c'est parti sur un coup de cœur, un désir d'organiser ça sur Millau. On était trois passionnés de polar. Et voilà, ça s'est mis en place très rapidement. On a contacté les auteurs qui nous ont dit oui. Alors qu'au début, on n'y croyait pas trop. Premier festival, bon, ils sont très sollicités. Il y a Hervé Lecor qui nous a dit oui, qui a accepté d'être le parrain. Et puis après, voilà, Jean-Bernard Pouy, etc., qui étaient tous là au premier festival. Et voilà, donc on a continué sur notre lancée. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir.
Pourquoi faire découvrir ce genre littéraire, quel polar, plus qu'un autre genre ?
Alors le polar, c'est en fait c'est un peu un miroir de notre société, enfin un miroir social et humain de la société. C'est un petit peu montrer le côté noir, ce qu'on a envie de cacher. Souvent, ce sont des descriptions de gens en difficulté, ou marginaux, ou les laisser pour compte. Petite précision, quand on parle de polar, il y a trois sous-groupes, en fait. Bon, sans vouloir vraiment tout mettre dans des cases, Il y a le roman à énigmes, comme Agatha Christie, etc., Simenon, tout ça. Après, il y a le thriller, et après, il y a le roman noir. C'est vrai que nous, on aime tout. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'aime tout, et dans la sauce, on est assez éclectique, avec une petite préférence pour le roman noir, qui, effectivement, joue ce rôle de révélateur du côté sombre de la société. Parfois avec humour, hein, c'est pas toujours... noir, une écriture noire ou un monde noir, il y en a qui ont beaucoup d'humour et de plus en plus. Mais voilà, ce côté révélateur de la société dans laquelle on vit.
Avec un fond historique parfois, un fond social bien sûr, mais oui. Pas spécialement.
Si, fond historique, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, quand on lit les livres d'Hervé Lecor ou d'un livre qui est au prix Robin Cook, Gwenaëlle Bulteau, voilà, il y en a beaucoup qui font référence à l'histoire, qui s'appuient sur l'histoire aussi pour parler du présent. Et voilà, tout ça s'est mélangé pour faire des histoires humaines passionnantes.
Alors Paul, tu viens d'évoquer le prix Robin Cook. C'est quoi Saint-Michel, le prix Robin Cook?
Alors le prix Robin Cook, il y a un prix des lecteurs et il y a un prix des bibliothèques. Et donc le prix des lecteurs, maintenant, actuellement, cette année, nous sommes 12 membres du jury. Et donc chacun doit lire donc les 6, lire et relire, se faire son opinion, choisir celui vraiment qu'il préfère. Et je peux dire que c'est très difficile parce que là sur les 6, j'en ai déjà lu 5, donc j'en ai déjà 3 qui me plaisent beaucoup et ça sera déjà difficile à choisir. Et il y a, parallèlement, il y a le prix des bibliothèques. Et là actuellement, on a 10 bibliothèques petites ou grandes. Et donc, c'est pareil, donc il faut que dans ces bibliothèques, chaque lecteur qui choisit de participer au prix lise les 6 livres et choisisse le livre, voilà. Et donc, dans les bibliothèques, ils auront une urne et ils mettront leur bulletin dans l'urne, quoi. Et au mois d'avril, on relèvera le nombre de votes pour chaque auteur dans les bibliothèques. Et voilà. Et le prix sera attribué 50-50, hein. 50% pour le prix des lecteurs et 50% pour le prix des bibliothèques.
Quelqu'un peut me présenter, Patrick, les 6 livres en lice?
Elsa Marpeau, L'âme du fusil.
Tu peux m'en dire 2 mots?
Je ne l'ai pas lu. Si, non, je
ça se passe dans le Médoc, je crois. En Sologne, plutôt. En Sologne, c'est assez noir. C'est un peu un univers de chasseurs.
Alors, Caroline Hino, Solac. Alors, ça se passe, ces 3 personnages qui sont sur une île en Arctique. C'est un polar noir et glacial. Fatal Baby. Alors ça, c'est un road movie, un thriller road movie avec un bébé qui a des pouvoirs fantastiques.
C'est de Nicolas Jaillet.
Nicolas Jaillet, oui.
Alors, La Bête en cage, c'est assez noir. Ça se passe dans le Jura. Donc, c'est l'hiver. Et il y a pas mal de personnages un peu décalés, un peu défavorisés. Et en fait, tout le monde se connaît. Alors, c'est soit le voisin, soit le beau-frère, soit l'oncle, le neveu, etc. Ouais. Et c'est un peu un huis clos autour d'un village, quoi. Ouais.
Si je peux rajouter, ça parle de la des difficultés économiques des paysans qui sont obligés de faire un second boulot pour s'en sortir ou là, ils vont s'engager dans une aventure qui va pas très bien finir pour eux.
Alors, Sonia Delzongle, c'est un thriller un peu écologique. On y parle des baleines, on y parle des gorilles. Il y a pas mal de choses. C'est assez touffu. Alors c'était Sonia Delzongle. Ça s'appelle Le Dernier Chant. Et La République des Fèbes de Gwenaëlle Bulteau. Ça se passe à Lyon, mais à la fin du 19e siècle, à la Croix-Rousse et dans d'autres quartiers de Lyon. On décrit un peu en même temps, on décrit les problèmes de la société, et puis en même temps, il y a un gros suspense, voilà, avec les policiers de l'époque, voilà. On est vraiment à Lyon au 19e siècle.
Quels sont les critères qui vous ont amené à choisir ces 6 livres?
On voulait que ça soit des auteurs pas trop connus, justement, pour que le prix serve également à les faire connaître et à les faire lire au grand public. Et puis, y a eu des coups de cœur un peu de différents membres du CA de l'association, voilà, des choses qu'on avait découvertes et qu'on avait envie de partager. Et en fait, ça a été des propositions de différentes personnes. Et voilà, après, on en discute et on se met d'accord sur la liste. Et voilà. On essaye aussi de mettre un premier livre. Et Caroline Hino, avec Solac, c'est un premier livre qui est une vraie réussite, qui a une ambiance totalement prenante et captivante.
Polar, vin et compagnie sur Dissonance. Et on va entendre maintenant un roman qui est lu en public. C'est le prix Robin Cook de l'année 2021
De l'année 2020. C'est Elle le gibier d'Elisa Vix, c'est Roux Algue Noire, sur la souffrance au travail, sur le nouveau management. Voilà les thèmes que peut aborder le polar, par exemple.
C'était aussi un premier texte ?
Non, pas celui-là. Non, non. Elle devait venir assister à la lecture musicale. Il y a eu les restrictions Covid et tout ça. Et on a dû annuler à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a décalé d'une année, finalement, et qu'on l'a fait qu'en 2021, en fait.
C'est excellent, cette idée aussi. C'est une bonne suite, cette lecture musicale. C'était en public ?
Oui, c'était à la médiathèque de Millau. Et après, on l'a fait au Viala aussi.
Qui c'est qui a fait la mise en son ?
C'est Vincent Dubu qui a fait un super accompagnement de la lecture. C'est vrai qu'il apporte beaucoup parce que il crée une ambiance, quoi, vraiment, colle complètement au texte.
Donc on n'a pas la fin du roman, la fin du texte, voilà. C'est ça, il faut se la procurer.
Voilà.
Tu peux nous rappeler le nom de l'auteur et du roman ?
Elisa Vix, Elle le gibier. Et donc on était trois lecteurs, il y avait Michel, William et moi, et Vincent Dubu à la musique.
On écoute.
Notre liaison a duré 2 ans. 2 ans d'instants volés. 2 ans de corps à corps. De goûter au lit. De bain à 4 heures de l'après-midi dans le petit appartement de la rue Dante. 2 ans de disputes et de retrouvailles. De rires et de pleurs. 2 ans d'amour fou. Nous avions réussi à organiser un week-end à Venise qui restera toujours pour moi la ville de Cristal. Cachée dans mon ordinateur, je garde une photo d'elle sur la plage du Lido. Elle a enlevé son haut de maillot. Ses seins pointent fièrement vers le ciel. Un ciel du même bleu intense que le médaillon que je viens de lui acheter à Murano et qui scintille sur sa poitrine. Ce médaillon unique dont la facture vous a mené jusqu'à moi. Sur le cliché, Cristal me regarde. Et moi seul sais qu'à cet instant précis, ses lèvres disent « Je t'aime ». C'est Cristal qui a décidé d'arrêter.
J'enviais tous ces gens qui se levaient à 6 heures du matin pour attraper de justesse un RER bondé qui croulait sous les dossiers et rentrait à pas d'heure. Tous ces actifs surbookés à énerver, tous ces candidats au burn-out qui ne connaissaient pas leur chance. Ils avaient trouvé leur place dans la société, eux. Moi, malgré ou à cause de mon bac plus 8, je n'existais pas. Je n'étais même pas une merde. J'étais une petite crotte, transparente et inodore. À quoi ça sert un ribosome ? À rien, maman. À rien. Et puis, au détour d'une de mes longues errances numériques, je tombais sur cette annonce. J'avais depuis longtemps abandonné mes ambitions de grande chercheuse et faisais feu de tout bois du moment que cela ne soit pas trop éloigné de mon champ de connaissances.
Medicines recrutait des scientifiques. L'entreprise, m'expliqua la DRH lors de notre premier contact téléphonique, travaillait pour différents laboratoires pharmaceutiques et était un leader international dans son domaine, l'information médicale. Il s'agissait de répondre aux questions des professionnels de santé, à savoir les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, et des patients, sur les médicaments commercialisés par différentes firmes.
Le 7 février, nous étions trois à rejoindre les rangs des chargés d'information médicale de Medicines, Crystal, Erwan et moi. Jamais ce matin-là, je n'ai imaginé que ça se terminerait ainsi. Non. En observant Crystal pour la première fois, je n'ai rien vu. Crystal semblait juste la fille à qui tout le monde veut ressembler. La femme parfaite. Celle à qui la nature a tout donné.
Nous fûmes répartis dans trois salles afin de signer nos contrats de travail. Ce dernier se révéla conforme à ce qui avait été annoncé lors des entretiens, excepté pour la rémunération. Le salaire annuel était inférieur de 1 000 euros à ce qui était prévu. Je réfléchis quelques minutes. Cela signifiait environ 60 euros de moins par mois. C'était encore jouable, à condition de faire très attention à mes dépenses. Je signais, pensant que j'avais du mal à entendre lors de mon dernier entretien. Je n'avais aucun document écrit pour vérifier. Crystal me révéla par la suite qu'elle avait été confrontée à la même mauvaise surprise. Elle s'en était ouverte à la DRH, qui lui avait confirmé qu'il s'agissait bien du montant annoncé en entretien. Crystal était arrivée à la même conclusion que moi. Elle avait mal entendu. Erwan, lui, ne doutait pas de son ouïe et avait bataillé pendant une heure avec la DRH, mais il avait fini par signer. Comme nous, il avait besoin d'un job, au moins d'une première expérience à inscrire sur son CV. Le reste de la journée se passa en présentations diverses et variées sur le fonctionnement de l'entreprise. Il y avait un règlement interne, assez strict. Par exemple, il était défendu de porter des jeans et des baskets, sauf le vendredi. La pause du midi durait une heure et pas une minute de plus. On ne devait pas se servir de son téléphone portable dans les locaux, même pour envoyer un SMS.
Un collaborateur de l'entreprise pouvait déposer une réclamation lorsqu'il constatait une erreur de la part d'un de ses collègues. Cela mettait en branle toute une série de procédures comprenant de multiples formulaires et réunions pour identifier la cause du fonctionnement et y remédier. Erwan demanda :
On ne pourrait pas plutôt aller voir ce collègue et l'informer de son erreur, afin qu'il la répare ou au moins ne la reproduise plus ?
Non. Le responsable du service qualité rétorqua que ce n'était pas la procédure.
On m'assigna une place dans le second open space. Dans cette grande pièce, plutôt sombre, une douzaine de filles répondaient au téléphone dans différentes langues ou pianotaient sur leur clavier. L'atmosphère semblait extrêmement studieuse, un peu comme celle d'une bibliothèque dans laquelle on aurait eu le droit de téléphoner. Je pris place dans mon fauteuil, m'adossais et pivotais à droite et à gauche. Voilà, c'était mon bureau, mon ordinateur. Voilà, j'avais un job, une fonction, une paye à la fin du mois. Lorsqu'on me demanderait ce que je faisais, je pourrais désormais répondre. Je travaille chez Medicines. Je suis chargée d'information médicale.
Crystal fut installée à côté de moi. En prenant possession de son fauteuil, elle me lança un sourire complice, comme pour me dire « On va former une bonne équipe. On va faire du bon travail ici. Et j'en étais persuadée. En quittant Medicine, je pris l'ascenseur avec Erwan. Il semblait préoccupé. Et sans me regarder, il lâcha entre ses dents.
C'est Guantanamo ici.
Je le trouvais un peu sévère, certes. L'entreprise s'était dotée de règles assez strictes, mais cela a été sans doute nécessaire à son bon fonctionnement. Un peu d'ordre ne nuit pas.
À 8h45 au plus tard, j'étais à mon poste de travail. Nous échangions quelques mots, puis rapidement, nous commencions notre besogne. Le premier mois était dévolu à la formation. C'était passionnant. Je découvrais le monde, inconnu pour moi, des médicaments. Je devais également faire d'incessantes recherches sur les pathologies qui s'y rapportaient. Et je finissais souvent après 19h.
Il fallait aussi se familiariser avec les modes opératoires, les différentes procédures et les logiciels qui variaient selon les laboratoires clients. C'était un travail colossal, exigeant une grande faculté d'adaptation. Nous ne prenions pas nos pauses. Il n'y avait pas vraiment de salle pour ça à Medicines.
Après une formation accélérée, Erwan avait été affecté au call center. Le call center avait mauvaise réputation. Le nombre d'appels reçus par les chargés d'information médicale y était impressionnant. Les laissant, le soir venu, la bouche sèche et le cerveau vide à force de répéter les mêmes phrases toutes faites.
Enfin, il fut décidé que Crystal et moi étions assez formés et que nous pouvions prendre des appels. Crystal travaillait à côté de moi, mais comme elle n'était pas anglophone, nous n'étions pas affectés au même projet. Souvent, elle était envoyée au call center, dont elle revenait exsangue, le visage fermé. Un jour, alors que nous pianotions sur nos claviers côte à côte, je l'entendis souffler.
Elle n'est jamais contente.
Elle parlait de Sophie H., sa supérieure directe. Elle me montra alors un reporting qu'elle venait d'imprimer.
Chaque soir, Sophie lui renvoyait ses tableaux corrigés en rouge. Et du rouge, il y en avait partout. Après un bref examen, je pus constater que la plupart des « erreurs » entre guillemets étaient vénielles. Une mauvaise police, là. Un oubli de virgule, ici. Une phrase pourtant correcte a tourné différemment. Et chaque soir avant de partir, pendant plus d'une heure, Crystal devait corriger ses reportings. Je crois que c'est ce jour-là, en croisant ses yeux éteints, que j'ai pris conscience de la pression qui pesait sur nous. Une pression absurde, délétère et contre-productive, maintenue grâce à une surveillance constante.
Chaque matin, nous devions nous connecter sur un logiciel pour recevoir nos appels. Nos heures d'arrivée et de départ étaient ainsi automatiquement notifiées à la hiérarchie et notre pause du midi implacablement chronométrée. Nous devions ensuite rester à notre poste sans bouger dans l'attente des appels. Pour aller aux toilettes, il fallait se déconnecter et l'information était transmise au chef de projet. Comme si cela ne suffisait pas, il fallait remplir le soir un reporting personnel sur toutes les tâches que nous avions effectuées dans la journée et du temps que nous y avions consacré, au quart d'heure près.
De plus, les appels étaient enregistrés. Les reportings envoyés aux clients devaient être validés par un chef de projet. Les polices, la taille des caractères, la hauteur des cases d'un tableau, tout était prédéfini et devait être respecté. Nous devions suivre les procédures à la lettre. Le plus petit écart, un changement de terme dans un message destiné au client, un délai dépassé de quelques minutes, était sanctionné d'un sec rappel à l'ordre et, si possible, devant tout le monde.
Le mot « initiative » était banni du vocabulaire de Medicines. Toutes ces règles coercitives avançant masquées sous les noms anodins de « procédures » ou « modes opératoires » m'apparurent soudain d'une violence inouïe.
Pourquoi j'ai quitté Medicines ? Vous plaisantez ou quoi ? Vous enquêtez sur Crystal et vous n'avez pas compris pourquoi j'ai quitté Medicines avant la fin de ma période d'essai ? Ok. Disons que je ne me reconnaissais pas dans les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire ? Marche ou crève, vous comprenez mieux ? Crystal, elle aurait dû partir, comme moi, pour sauver sa peau. Parce que ça devait arriver un truc comme ça. Parfois, je regrette d'avoir démissionné sans foutre le bordel avant. Je ne vaux pas mieux que les autres, j'ai eu peur de faire un éclat et que ça me suive, vous comprenez ? Me faire une sale réputation et de ne plus retrouver de job après. J'ai dit à ma chef de projet que j'avais trouvé un nouveau job. C'était faux. Ils n'ont pas cherché à me retenir. Le soir même, ils m'ont fait signer les papiers, m'ont demandé de quitter l'entreprise, tout de suite, sans dire au revoir à mes collègues. J'ai obéi. En y réfléchissant bien, Crystal, elle a eu du cran. Le cran que personne n'avait. A lot of guts.
De la période d'essai, différents bruits circulaient dans les couloirs de Medicines. Certains prétendaient qu'elle était systématiquement reconduite, quelle que soit la valeur de l'employé. D'autres disaient que si tu n'avais pas été convoqué par la DRH le jour J, c'était bon, tu étais validé. Le 7 juin, je n'avais pas été convoqué. Crystal, si.
Son entretien ne dura pas très longtemps. Un quart d'heure, pas plus. Il se déroula en présence de la DRH et de sa chef de projet, Sophie H. On lui expliqua, me relata Crystal, des trémolos d'indignation dans la voix, qu'on était très content de son travail et que par conséquent, sa période d'essai allait être renouvelée. D'abord, Crystal, étourdi comme un boxeur, à qui son adversaire a envoyé un coup avant la sonnerie, ne sut quoi répondre. Enfin, reprenant ses esprits, elle s'était étonnée. Puisque son travail donnait satisfaction au bout de 4 mois, pourquoi sa période d'essai n'était-elle pas validée ? La DRH tica, visiblement déçue par la réaction de Crystal. Il fallait qu'elle voie cette reconduction, non comme une sanction, mais comme un encouragement.
J'ai signé. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ?
Quatre mois plus tard, comme je l'avais prédit, la seconde période d'essai de Crystal fut validée.
Lorsque Crystal se trouvait à côté de moi, je savais à un imperceptible raidissement de ses épaules qu'elle venait de recevoir un mail de Sophie H. Bien qu'elle fût dans un bureau en face d'une autre, Sophie H. communiquait essentiellement par mail avec les filles de son équipe. Elle arrivait aux aurores et envoyait des mails de choses à faire dans la journée, une sorte de to-do list. Sauf que habituellement, on prépare soi-même sa to-do list. Elle y détaillait non seulement les tâches à réaliser, mais également, de façon très précise, la manière de s'y prendre.
Cela mettait Crystal en rage, une rage intériorisée, que j'étais la seule à remarquer. La journée de Crystal était ensuite rythmée par d'autres mails de Sophie H. Elle lui rappelait les délais à tenir, mais Crystal tenait toujours les deadlines. Un point de réglementation que sa subordonnée aurait oublié, ou lui renvoyer des rapports qu'elle venait de corriger. Les corrections n'en finissaient pas. Il fallait parfois 15 à 20 allers-retours pour simplement valider un paragraphe. Elle trouvait sans cesse une broutille à reprocher au travail de Crystal. À Medicines, on disait que Sophie H. était perfectionniste. En privé, Crystal disait
« C'est une emmerdeuse !»
Heureusement, elle travaillait également sur d'autres projets, avec d'autres chefs, ce qui lui permettait de souffler.
« Sinon, je deviendrais folle. »
J'étais consultant depuis 3 ans chez Medicines. J'y bossais 8 à 10 jours par mois. À la base, je suis médecin, mais j'ai toujours travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Crystal, je la croisais à Medicines, sans plus. Bien sûr, je l'avais remarqué, je ne suis pas aveugle. Je ne lui ai vraiment parlé qu'à une occasion. Ça m'a suffi pour me faire ma petite idée. Eh bien, c'est une fille entière. Trop, sans doute. Un soir, j'eus l'occasion de l'aborder plus franchement. C'était lors d'un de ces cocktails que la direction organisait, dans une salle de réunion avec vue sur le périph' pour fêter la signature d'un nouveau client. Tout le personnel devait faire acte de présence. J'abordais Crystal en tête à tête pour la première fois. Je ne l'avais pas vue de si près depuis longtemps et la trouvais fatiguée. Mais ses yeux enfiévrés et ses joues creuses ne nuisaient pas à sa beauté, la rendant plus attirante même, comme à l'approche d'un danger, d'une maladie incurable. J'avais du mal à détacher mes yeux du renflé de boutons de rose de sa bouche, si ce n'est pour les glisser vers son décolleté où un médaillon bleu brillait doucement dans la semi-pénombre. Du verre de Murano, me sembla-t-il. Oui, j'ai travaillé avec Sophie H. C'était une grande et belle femme, mais pas dans le genre de Crystal. Vous n'aviez pas envie de partager un verre de chardonnay avec elle couchée sur une peau de bête devant un feu de cheminée, non. Sophie vous donnait juste envie de vous tenir à carreau. Bon, cela dit, elle était très performante et très très tatillonne. Franchement, je n'aurais pas aimé être sous ses ordres. Pharmacienne, 28 ou 29 ans, elle a bâti un travail considérable, même si nous perdions beaucoup de temps sur des détails qui n'en valaient pas la peine. Les clients l'adoraient, le CEO de Medicines la vénérait. Crystal n'a jamais eu la moindre chance contre Sophie. Oui, on a poussé Crystal à bout et toute la direction était complice. Pourquoi je n'ai rien fait ? Sans blague, vous voulez me mettre ça sur le dos ? Bon, ok, je me calme. Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi. Vous savez, Sophie était chiante avec tous ses subordonnés. La direction disait qu'elle était perfectionniste. Elle foutait la pression à toutes les filles. Le management par le stress, c'était vraiment son truc. Pourquoi ça n'a pas marché avec Crystal ? Pourquoi ça l'a fait souffrir plus que les autres ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Ensuite, lorsque Crystal a commencé à résister, le système Medicines a pris peur et s'est emballé. Il tenait les gens par la terreur, vous comprenez ? Et soudain, il y en avait une qui n'avait plus peur. Il y avait une poulette qui avait sauté en piaillant de la chaîne d'abattage et qui risquait de contaminer tout le bâtiment. On ne résiste pas chez Medicines. On se tait, ou on s'en va, ou on est broyé.
Au restaurant d'entreprise ce jour-là, nous étions une dizaine de salariés attablés devant un poulet au raisin sec. Et chacune y allait de son laïus sur la bêtise et la méchanceté du CEO. Sans compter les managers, qui ne disaient jamais rien pour nous défendre. Toutes fustigeaient les salaires misérables, les augmentations inexistantes et les heures sup non payées. Soudain, la voix claire de Crystal s'éleva dans le brouhaha de la cantine.
Il n'est pourtant pas difficile de faire plier la direction.
Les 10 paires d'yeux se tournèrent vers elle.
Mais vous ne comprenez pas qu'à Medicines, si le CEO est le chef, nous sommes les reines. Mais que serait la boîte sans nous ? Qu'arriverait-il si nous cessions tout simplement de répondre au téléphone? Que diraient les clients de Medicines si soudain les lignes sonnaient dans le vide? Les sporting et les rapports n'étaient plus envoyés.
Quelques filles gênées baissaient la tête. D'autres faisaient semblant de ne pas comprendre.
Pourtant, c'est simple. Seuls, nous ne sommes rien. Mais ensemble, nous sommes des reines. Nous les tenons dans nos mains.
C'est sans doute parce que j'étais engluée dans mes problèmes et submergée par ma charge de travail à Medicines que je prêtais peu d'attention à l'affaire de la réclamation. Cela débuta entre Noël et le jour de l'an. Une nouvelle recrue avait envoyé un reporting faux à l'un des gros clients de Medicines. À vrai dire, le reporting était plutôt incomplet que faux. Le client s'en émut. L'erreur fut corrigée le lendemain. Fin de l'incident. Sauf qu'il s'agissait d'un projet suivi par Sophie H., absente ce jour-là. Oui, il lui arrivait, ou très rarement, de prendre des congés. Le soir, découvrant l'échange de mails, le sang de Sophie H. ne fit qu'un tour. Elle ouvrit une réclamation dès son retour.
Je ne me souviens plus, mais... j'imagine. Les épaules de Cristal ont dû se raidir en découvrant le nom affiché sur son téléphone. Une vague chaude de pur stress a ondulé sur ses omoplates parce que ce nom, en lettres noires, sur son poste, ne pouvait signifier qu'une nouvelle brimade, qu'un nouveau reproche. Elle a attendu une, deux, trois sonneries, puis elle a décroché. Du bureau voisin, Sophie H. lui annonçait que, pour son information, une réclamation avait été ouverte concernant l'envoi du reporting erroné. Les doigts de Cristal se sont sans doute crispés sur le combiné. Une réclamation. Une réclamation contre elle. Comme une pancarte accrochée à son cou. Incompétente.
Mais le rouleau compresseur de la réclamation ne s'arrêta pas là. Une réunion fut organisée entre Sophie H. et la direction. Il en ressortit que le maillon faible était décidément Cristal. Et que ce maillon, qui avait pourtant donné satisfaction pendant un an, devait être surveillé comme un vulgaire boulon de mauvaise qualité.
À l'issue de cette assemblée, Sophie H. se déplaça en personne dans notre bureau. Devant toutes les filles, elle annonça à Cristal que, quels que soient les projets, tous ses envois jusqu'au moindre mail devraient désormais être validés par elle-même. L'objectif était de parvenir à 100% de reporting indemne d'erreur dans 2 mois.
À cet instant, je réalisais à quel point l'expression « se décomposer » était juste. Cristal se décomposa sous mes yeux. Ses lèvres remuèrent, laissant échapper un filet de voix à peine audible. « Je ne vais pas tenir, je ne vais pas tenir. » Un court moment, je crus qu'elle allait s'effondrer, que ses épaules allaient se désarticuler, ses vertèbres céder une à une, qu'elle allait glisser doucement sous sa chaise comme un vêtement mal accroché. Mais dans un ultime effort, Cristal se redressa. Elle se leva, ramassa ses affaires telle une automate et sortit, chancelante, mais debout. Dans le bureau silencieux, nous nous dévisageâmes interloqués. Il était 17h40. Personne ne devait partir avant 18 heures sans permission.
Cristal tint une semaine. Une semaine de contrôle tatillon jusqu'à l'obsession. Une pression totalement contre-productive, car Crystal se mit à commettre des erreurs. Elle qui rendait des travaux que tout autre manager que Sophie H. aurait accepté sans tergiverser, se mit à faire des bourdes. Et plus elle s'appliquait, plus elle laissait échapper des inexactitudes. C'était comme si cet œil inquisiteur au-dessus d'elle lui avait fait perdre tous ses moyens. Elle pensait, me confia-t-elle, qu'il montait un dossier contre elle, un dossier pour la virer. Mais pourquoi ? À chaque mail de Sophie H., chaque coup de fil, chaque reporting à envoyer, chaque rapport à rendre, une décharge d'adrénaline inondait le corps de Crystal, rongeant doucement les cellules, les unes après les autres. Jusqu'au jour où le corps de Crystal se tut.
Ce jour-là, j'avais dû insister pour qu'elle se joigne à nous, mais elle avait à peine touché son repas. Nous marchions côte à côte lorsqu'elle s'effondra. Le corps de Crystal s'arrêta. Il refusait de continuer. Crystal ne glissa pas. Elle ne s'affaissa pas. Non, elle s'écroula d'un bloc. Comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Elle dégringola, se transforma en ce petit tas informe, souillé des reliefs de son repas, qui gisait à mes pieds. Mon plateau à la main, je restais interdite.
On redressa Crystal, on lui tapota les joues, on dégrafa son corsage.
Mademoiselle, mademoiselle.
Un homme voulut lui faire boire de l'eau. Une femme suggéra qu'elle était peut-être enceinte. On s'enquit de la présence d'un médecin dans la salle, d'un sucre ou d'une aspirine. Le lendemain, Crystal manquait à l'appel. La veille, elle était rentrée seule chez elle. Personne ne s'était proposé pour la raccompagner.
La seconde fois que Crystal m'a consultée, elle était vraiment au bout du rouleau. Elle a raconté le travail répétitif sans intérêt, la pression, les délais impossibles à tenir, la surveillance permanente de sa manager.
Le pire, c'est que je rêvais d'être une grande chercheuse, de combattre les maladies et que j'ai échoué. Et que je me retrouve à répondre à des questions assommantes et à remplir des tableaux Excel débiles. Et que même ça, j'y arrive pas.
Il ne faisait aucun doute que Crystal se trouvait en situation de harcèlement moral et que cette situation la poussait doucement mais sûrement vers la dévalorisation et la dépression. Lorsque je lui ai annoncé, les traits de Crystal se sont relâchés. Elle était soulagée, soulagée qu'une personne extérieure mette un nom sur son mal. Si j'ai sous-estimé la souffrance de Crystal, non, je ne crois pas. C'est vrai. J'aurais pu l'arrêter plus longtemps, mais ça aurait changé quoi ? À son retour dans l'entreprise, elle aurait dû faire face aux mêmes agissements sournois de sa hiérarchie. La pousser à démissionner. Je ne crois pas que ce soit mon rôle. Et puis, la démission, c'est à double peine. Ce n'est pas au harcelé de partir.
Crystal était revenue de sa semaine de congé maladie remontée à bloc. Son teint avait retrouvé de la couleur, ses gestes avaient recouvré leur vivacité. C'était presque la Crystal du début, en chemisier transparent et talons hauts, sourire aux lèvres et regard pétillant. Elle a aussitôt demandé un rendez-vous avec la DRH qu'elle a rapidement obtenu. Elle en est ressortie plutôt confiante. Elle avait été écoutée.
5 jours plus tard, Crystal était à nouveau convoquée chez la DRH pour un entretien préalable à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Crystal a été dispensée d'effectuer son préavis. Lorsqu'elle a ramassé ses affaires, j'étais en réunion. Je ne l'ai pas vue.
Je ne l'ai plus jamais revue.
Si j'étais restée, bien sûr que ça aurait changé quelque chose. J'aurais tout de suite vu dans quel état ma petite fille se trouvait. J'aurais pu l'arrêter, la réconforter, l'enfermer au besoin. Quand elle a demandé si elle pouvait venir se reposer quelques jours à la maison, j'ai pas compris qu'elle était au bout du rouleau. J'ai répondu « Bien sûr, ma chérie, tu es ici chez toi, mais je pars à Bali jeudi avec Joren. » Elle a dit que ce n'était pas grave, que ça lui ferait du bien de marcher seule dans la forêt. Nous nous sommes croisés. J'avais annoncé sa venue à notre voisin Karim. Il est si serviable. Je crois en plus qu'il a toujours eu un petit faible pour Crystal. Ils se connaissaient depuis le collège. Ils faisaient la paire à l'époque. Karim est devenu un gars solide. Quelqu'un sur qui on peut se reposer. Je suis partie sans m'en faire. Si Crystal avait besoin de quelque chose, Karim l'aiderait. Je croyais bien faire. La dernière fois que j'ai vu ma fille, c'était le jour de mon mariage.
Lorsque Sylvie m'a annoncé la venue de sa fille et demandé de veiller discrètement sur elle, mon cœur a bondi dans ma poitrine, comme lorsque j'étais ado et que j'apercevais au loin sa bicyclette. J'allais la revoir, pouvoir l'approcher, enfin. Un soir, lorsque je suis rentré chez elle avec mon carton de pizza à la main, Crystal ne patientait pas dans la cuisine. Elle ne m'attendait pas, assise dans sa position favorite et les jambes repliées sur sa chaise, sa main droite caressant son médaillon bleu. Tout était rangé, récuré. Sur la table, il y avait une enveloppe avec l'inscription « Pour maman ». En bas de l'escalier, j'ai appelé au cas où elle serait dans sa chambre. Pas de réponse. Vexé qu'elle soit partie sans me dire au revoir, je me suis dirigé vers ma maison. J'ai traversé la rue, plongé dans l'obscurité. En approchant de chez moi, la lumière automatique s'est allumée. Sur ma porte d'entrée, il y avait un post-it. Crystal y avait simplement écrit « Pardon ».
Le 29 mars, Crystal a pris le train pour Paris. Elle était munie d'un sac de sport noir. Gare du Nord, elle a emprunté la ligne 4 du métro. On sait, d'après les vidéos de surveillance, qu'elle a donné 100 euros à un SDF qui chantait le port d'Amsterdam en s'accompagnant d'un vieil accordéon et qu'elle a cédé sa place à une femme enceinte.
Thank you.
Pollard, Vin et compagnie sur Dissonance. Est-ce que vous pouvez me rappeler les modalités d'organisation pour le festival Pollard, Vin et compagnie édition 2022?
Alors les dates, donc à cause des élections, on a fixé les dates au 14 et 15 mai, 13, 14, 15 mai. Il y aura des choses un peu toute la semaine, mais le cœur du festival, ça sera le 14 et 15. Donc au Créa, il y aura entre 10 et 15 auteurs. On en a déjà 11, donc il reste 4 maximum à inviter. Après, on aime bien aussi faire une conférence sur un thème de société, donc en lien avec le polar, que ce soit la justice, voilà, l'année dernière, c'était Olivier Tesquet-Télérama là, qui a parlé de la nouvelle trace informatique, enfin voilà. Et donc là, cette année, on n'a pas encore décidé le thème, mais il y aura également un partenariat avec Mio en Jazz qui sera nouveau. Donc on sera sur le festival de Mio en Jazz à Sambucy au mois de juillet, en plus de notre festival au mois de mai.
Et pour le prix du public, à partir de quand on peut trouver ces livres en médiathèque? Dès maintenant?
Dès maintenant, ouais. Vous pouvez les emprunter, les lire dès maintenant, ouais. Tout est mis en place. On va compléter quand même le nombre de bouquins par bibliothèque et médiathèque, mais déjà, ils sont partout.
Et après, il faut répondre avant?
Avant, alors c'est mi-avril à peu près. J'ai plus la date exacte. Les bibliothèques et médiathèques l'ont, je crois que c'est le 13 avril ou quelque chose comme ça, parce que après on envoie nous le nom du vainqueur, du lauréat à la maison d'édition qui nous fait un bandeau prix Robin Cook. C'est pour
avril.
Ça qu'il faut un mois.
16 avril.
Voilà, je n'étais pas loin.
Vous pourrez prendre les repas sur place, il y aura une buvette, il y aura de la musique le samedi soir. Et des tables rondes, une conférence et vos auteurs préférés à rencontrer, puisqu'il y aura Jean-Bernard Puy qui revient cette année, Benoît Sévrac, Nicolas Jaillet, Olivier Bordassard, Nicolas Leclerc. Pour les gens un peu de notre génération, Eric Jung, je ne sais pas si ça vous parle, qui faisait les émissions à la radio, je ne sais plus comment ça s'appelait, sur France Inter. Voilà.
Et tout ça, on peut le retrouver sur un site?
Oui, sur notre site internet. Alors, vous tapez www.festivalpolarmio.com et vous tombez sur nous.
Excusez-moi, on a oublié les viticulteurs. Il y aura, je pense, 4 viticulteurs. Et ce sont des viticulteurs uniquement en bio, qui seront de la région. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore défini tous les noms, mais ce ne sont que des viticulteurs bio.
Est-ce que vous êtes le seul festival à mettre en pratique ce concept et à allier polar et vin, ou non, littérature et vin?
Il y en a plusieurs, il y en a à Lille-sur-Tarn, et puis je pense qu'il y en a plusieurs.
Limoges.
À Limoges aussi. Ils ont du vin à Limoges?
Je ne sais pas comment ça s'appelle, le vin noir, je crois. Ouais, à Limoges. Je crois qu'il y en a un autre qui vient de se créer aussi dans le sud, par là. Mmh. C'est vrai que ça va bien ensemble.
Il y a des projets sur Bédouin vers le Mont Ventoux. Là. On a rencontré les futurs organisateurs. Mais oui, ce sera Polaire Épinard. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Nous, on n'a pas osé.
Merci beaucoup, Paul, Michel et Patrick.
Merci, Joseph. Et à bientôt. Au revoir.
Tous les renseignements sur le 4e festival Polar, Vin et compagnie qui se tiendra à Millau les 13, 14 et 15 mai 2022 sont à trouver sur le site internet festivalpolarmillau.com. Vous y retrouverez aussi toutes les informations sur les précédentes éditions de ce festival. Et pour tous les auditeurs qui souhaitent être membres du jury pour le prix public de l'édition 2022 du prix Robin Cook, vous pouvez retrouver les livres à sujet à la bibliothèque ou aux médiathèques de Rodez, Sévrac, Saint-Affrique, Cornus, Le Viella-du-Tarn, Rivière, Le Caylar, Millau, Compeyre et Saint-Bosély. Cette émission est à écouter sur les antennes de Radio Saint-Afrique, mardi 28 décembre à 18h, mercredi 29 décembre à 8h du matin et le samedi 1er janvier 2022 à 16h. Vous pouvez aussi, bien entendu, la télécharger à votre guise sur le site dissonance.ovh ainsi que sur le site internet de Radio Saint-Afrique, page Dissonance.
Salut
et fraternité. Yes, indeed. Oh, baby.